France Inter.
Les infos avec Fabien Fourel, bonjour.
Bonsoir à tous. Magistral, Ferrand Prévost, à quelques coups de pédale d'un sacre historique en Haute-Savoie sur le Tour de France Femmes. 36 ans que la France l'attendait depuis Jeannie Longo. Nous serons en direct dans ce journal. Des palettes pour sauver des vies, France Inter a pu embarquer ce dimanche dans l'un des avions français larguant des vivres sur Gaza. Un champ de ruines, nous dira notre reporter dans l'avion. Les commémorations demain de l'explosion du port de Beyrouth, 5 ans après la catastrophe au Liban. L'enfant de 10 ans, emporté par une vague à Gravelines dans le Nord, était sur un petit bateau dans une zone non surveillée. Les recherches sont ce soir arrêtées. Et puis le plus gros chantier SNCF de l'année débute demain entre Paris et Orléans avec 6 mois de perturbations pour les usagers. La météo de ce début de semaine, Magali Rochereau, avec un ciel nuageux au nord et du soleil dans la moitié sud.
Oui Fabien, et des températures qui continuent à monter, surtout dans le sud du pays.
La météo en détail à la fin de ce journal.
France Inter.
Des palettes pour la survie. Une nouvelle fois ce dimanche, la France a livré des vivres, des denrées, 12 tonnes sur 40 annoncées, déjà lancées via des avions militaires. Et c'est un témoignage rare, vous étiez à bord de l'avion pour Inter. Bonsoir Boris Loumagne. En direct d'Amman en Jordanie, d'où décollent les avions français? Qu'avez-vous pu voir? Quelles images vous ont marqué lors de ce premier survol de Gaza depuis le blocus israélien?
Alors une image peut-être que je retiendrai, c'est la couleur de l'eau de la mer, ou plutôt les couleurs de l'eau. Nous avons d'abord survolé les côtes israéliennes à bord du C-130 français. L'eau était bleu turquoise, l'écume des vagues blanches. Et puis quand nous sommes arrivés à la hauteur des côtes de Gaza, l'eau est devenue grise, l'écume marron. Et on comprend vite pourquoi. C'est dû bien sûr aux conditions sanitaires déplorables et puis à toute la poussière aussi, à tous les gravats que l'on devine depuis notre avion. En fait, pendant 10 minutes, 20 minutes peut-être, nous avons survolé un vaste champ de ruines, des quartiers entiers pulvérisés, des usines en ruines, une station de traitement de l'eau endommagée, des immeubles d'habitation éventrés par l'impact des obus israéliens. Et puis ce qui est frappant aussi, c'est le peu de vie que l'on devine depuis le ciel. Pas de voitures, très peu d'habitants dans les rues, un peu comme si nous survolions une ville de nuit, mais là nous étions en plein jour.
Boris, comment s'est passée la mission de largage des militaires français aujourd'hui?
Eh bien, ça a été un peu compliqué. En fait, la population de Gaza sait désormais où sont larguées les palettes d'aide humanitaire et les Gazaouis ont faim. Donc, il y a désormais des attroupements qui attendent les colis parachutés. Et quand l'avion français est passé une première fois, le pilote a eu un doute. Il a jugé que larguer ces palettes, c'était trop dangereux. Il a donc fallu faire demi-tour pour refaire une boucle dans les airs. Et cette fois, le C-130 a pu larguer ses 4 palettes de 4 tonnes. La foule s'étant quelque peu dispersée. C'est 4 tonnes livrées donc aujourd'hui, du lait en poudre pour nourrissons, de la farine également. La France doit encore larguer 28 tonnes d'aide humanitaire dans les prochains jours.
Boris Loumagne avec les moyens techniques de Martin Troidec en direct d'Amman en Jordanie, en marge de ses distributions alimentaires. 19 Gazaouis sont morts ce matin, tués par des frappes israéliennes selon la défense civile palestinienne. Le président Emmanuel Macron dénonce ce soir la cruauté abjecte et l'inhumanité sans limite du Hamas. Après les dernières diffusions de vidéos d'otages israéliens détenus à Gaza, des hommes émaciés, décharnés. Le président affirme que la priorité absolue et impérative pour la France est la libération immédiate de tous les otages. Et puis nous vous en parlions cette semaine, l'étudiante Gazaoui accusée de propos antisémites qui devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée, a désormais quitté la France, annonce Jean-Noël Barrot ce soir. La jeune femme de 25 ans a rejoint le Qatar pour y poursuivre ses études, précise le ministre français des Affaires étrangères. Un énorme panache de fumée, plus de 200 morts et 6500 blessés. Demain marquera les 5 ans de l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire, celle du port de Beyrouth au Liban. Les Libanais continuent de demander justice dans une ville transformée, métamorphosée par le drame. Arthur Saradin est le correspondant d'Inter sur place.
En 5 ans, le quartier de Mar Mikhaïl a bien changé. En vérité, depuis la reconstruction, il s'est surtout gentrifié. Michel habite là depuis les années 60. Il a assisté à cette métamorphose.
Plus rien n'est comme avant. Les ONG nous ont aidés à reconstruire comme elles ont pu, mais ce qui est perdu pour toujours. Depuis la reconstruction, ce quartier qui était autrefois très résidentiel et industriel est désormais envahi par les enseignes et les restaurants hors de prix. Des endroits faits pour les touristes ou ceux qui en ont les moyens. On ne pourra pas revenir en arrière.
Sa maison à lui est la seule de l'immeuble à avoir été restaurée. Le reste du bâtiment, comme d'autres dans le quartier, ont été laissés à l'abandon. C'est le cas des silos à grains du port, édifice gigantesque devenu l'une des dernières traces visibles de l'explosion dans ce quartier prisé par les investisseurs. Demain, les familles des victimes de l'explosion s'y réuniront pour demander justice alors que l'enquête piétine et que la mémoire s'efface au gré des reconstructions.
Arthur Saradin à Beyrouth pour Inter. L'inquiétude d'une reprise de violence intercommunautaire en Syrie après deux morts aujourd'hui à Souweida dans de premiers affrontements depuis le cessez-le-feu du 20 juillet. Cette localité du sud du pays a été le théâtre d'affrontements sanglants entre druzes, chiites et bédouins sunnites qui ont fait plus de 1400 morts au début de l'été. Et puis au Chili, au surlendemain de l'effondrement de la plus grande mine souterraine au monde, les corps de deux mineurs sans vie ont été retrouvés à 1200 mètres de profondeur. Les recherches se poursuivent pour deux autres victimes. En France, les recherches sont terminées à Gravelines dans le Nord après la disparition d'un adolescent hier après-midi. Il se trouvait en fait sur un petit bateau. La suite, c'est Alain Bonneface, l'adjoint à la sécurité du maire de Gravelines, qui la raconte.
C'était trois frères qui étaient sur la plage de Petit-Fort, mais dans une partie où la baignade n'est pas surveillée. Le père et l'oncle étaient à la pêche derrière la ferme aquacole de la ville de Gravelines. Pour une raison déterminée, ces trois jeunes étaient sur une petite embarcation de loisir, un petit bateau pneumatique. Le bateau aurait chaviré. Est-ce qu'ils ont chahuté à l'intérieur? Est-ce que c'est une vague qui a fait renverser l'embarcation? Toujours est-il qu'avec le vent, ils s'étaient éloignés un peu de la zone de surveillance du papa et de l'oncle. Et puis malheureusement, deux ont pu être secourus, un par les pêcheurs et un par les sauveteurs de la plage. Mais malheureusement, le troisième n'a pas été vu par les sauveteurs et le corps aujourd'hui reste à la mer. La mer était un peu agitée. On avait un vent à peu près de force 50 km/h. Le drapeau rouge avait été hissé au poste de secours de la plage, donc la baignade n'était pas recommandée. C'était bien indiqué que cette zone-là n'était pas sous surveillance des sauveteurs.
L'adjoint au maire de Gravelines, chez nos confrères de France Info, les recherches infructueuses sont maintenant terminées. Des policiers visés la nuit dernière en marge d'un rassemblement de tuning à Saint-Germain-du-Puy, près de Bourges, dans le Cher. Les fonctionnaires ont été la cible de mortiers d'artifice alors qu'ils tentaient de mettre fin à cet événement. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène, une personne est en garde à vue pour participation à un rodéo motorisé et mise en danger de la vie d'autrui. C'est plus calme à la rave party non autorisée organisée dans la Drôme. Depuis avant-hier soir, 1500 tuffeurs sur un parc éolien. Vendredi soir, des voitures de gendarmes ont été caillassées, mais depuis, la situation s'est calmée. C'est le chantier le plus important de l'année pour la SNCF. 133 millions d'euros pour refaire des dizaines de kilomètres de rails dans l'Orléanais, sur la Polte. Dès demain, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse sera coupée entre Orléans et Paris du matin 9h30 au soir 17h30 et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ne pas avoir planifié les travaux la nuit pour ne pas perturber les trajets? Laurent Quellet, vous êtes le directeur régional SNCF Réseau en région Centre-Val de Loire.
Cet axe-là fait partie du corridor fret atlantique et donc on a des engagements internationaux qui imposent des heures de présence au point frontière pour ces trains-là qui transportent essentiellement de l'automobile et des produits métallurgiques. Et donc il fallait que ces trains puissent circuler la nuit pour être au point de rendez-vous des frontières. Et donc cet axe-là alimente tout le nord et l'est de la France vers l'arc atlantique et l'Espagne et le Portugal. C'est un axe clé pour le trafic fret international, pour l'ensemble de nos voyageurs, qu'ils soient TER ou intercités. Et donc on a des besoins de régénérer cette artère vitale pour l'économie du pays. Avec ces travaux, certes, qui sont péjorants pour les clients, on assoit la performance et la qualité de service pour demain.
Laurent Quellet, directeur régional SNCF Réseau en région Centre-Val de Loire. C'est un temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Une victoire française sur le tour homme ou femme, la dernière, Jeannie Longo en 89. Mais ce soir, bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir.
36 ans après, la reine Pauline Ferrand-Prévot est donc sacrée en Haute-Savoie.
Ah oui, et quelle victoire, quel sacre de Pauline Ferrand-Prévot qui en plus l'a fait avec la manière, elle a attaqué dans les 10 derniers kilomètres pour aller en plus s'adjuger la victoire d'étape ici à Châtel. Pauline Ferrand-Prévot qui ensuite eh bien a eu le temps de savourer en solitaire ce succès. On l'a vu lever les bras, on l'a longtemps vu, le sourire, puis ensuite les petites larmes qui coulaient sur le visage. Pauline Ferrand-Prévot qui semble ne pas y croire, mais oui, première participation au Tour de France. France et première victoire déjà pour la Française de 33 ans. On le rappelle, il y a un an, elle célébrait un titre de championne olympique de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, qui s'inscrit définitivement dans la légende du sport français.
Fanny Le Chevestrier, merci de nous avoir fait vivre cette victoire française historique. La gauche met la pression sur Emmanuel Macron pour empêcher l'incinération de stocks de contraceptifs féminins que l'administration Trump ne veut pas donner aux pays pauvres. La France insoumise dépose une proposition de résolution à l'Assemblée pour que le gouvernement réquisitionne les contraceptifs qui doivent possiblement être détruits sur le sol français. Et puis 1 million de jeunes fidèles catholiques rassemblés pour la messe de clôture du jubilé des jeunes de l'année sainte à Rome. Messe célébrée par le pape Léon XIV ce matin. Il assure que l'Église est solidaire avec ceux vivant dans des régions déchirées par la guerre. Nous sommes avec les jeunes de Gaza, avec les jeunes d'Ukraine, avec ceux de tous les pays ensanglantés par la guerre, a lancé le pape. France Inter, 19h10. C'est un moyen de transport disparu au début du XXe siècle qui fait son retour. Des bateaux-bus font partie du réseau de transport en commun de la ville de Lyon depuis un mois. On les appelle les Navigones et ça cartonne. Plus de 35 000 voyages sur la ligne depuis sa mise en service. Des touristes, mais aussi des Lyonnais qui redécouvrent leur environnement. Reportage Mathieu Bonnour.
Une longue file de voyageurs attend l'arrivée du bateau. Son nom, le Vaporetto. Clin d'œil à Venise.
Bonjour, bienvenue. S'il y a du monde, bah vous pouvez aller vous installer puis vous valider dans 2 minutes.
Sergio, le capitaine, accueille les passagers. Un simple abonnement ou un ticket spécial permet de monter à bord. Départ en douceur, 15 km/h maximum sur la Saône.
Il y a des moments où on se dit, mais c'est bien, je suis payé pour faire ça, avec un cadre de travail comme ça.
À l'intérieur du bateau, du bois un peu partout. À gauche, dehors, les jolis immeubles du Vieux-Lyon.
Ça fait partie de ces bonheurs de tous les jours, de ces petites choses qui font que le travail est agréable.
Les voyageurs regardent tous à travers les fenêtres. Certains ont la chance d'être à l'extérieur, comme Christophe, en vacances.
On est quand même mieux là, on a de l'air, on a la luminosité, on voit les façades. En camp métro, on voit un tunnel noir. L'approche est totalement différente en souterrain et en plein air. C'est jour et la nuit.
Cheveux au vent, lunettes de soleil, Francine, lyonnaise, des étoiles dans les yeux.
C'est extraordinaire. Une sensation de liberté et on redécouvre les quais. Et puis plein de choses, c'est vraiment top. C'est une très bonne idée. J'espère que ça a perduré d'ailleurs.
Et oui, le service va même se développer pour passer de 2 à 4 bateaux au printemps prochain, avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe.
Mathieu Bonnour à Lyon pour Inter. Du bateau sous un soleil de plomb, une nouvelle vague de chaleur se profile et frappe déjà dès demain le sud de l'Europe par l'Espagne. En France, on s'attend à des pointes à 40 degrés par endroit dans le sud de la France dès le milieu de semaine. On en vient à cette France triomphante aux mondiaux de natation. 8 médailles françaises pour terminer Singapour. Cela faisait 12 ans que la France n'avait pas eu un tel bilan. Pourtant, ce matin, Léon Marchand semblait en difficulté en série avant de décrocher la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages et de remporter ensuite en équipe l'argent avec le relais 4 fois 100 mètres 4 nages. Quelle soirée!
C'est la raison pour laquelle je nage, je pense. C'est vraiment ça. C'est vrai que ce matin, c'était pas facile. Je suis pas un nageur du matin, donc j'ai surtout eu de la chance au niveau des centièmes d'avoir ma ligne ce soir. Et j'ai réussi à faire ma course du début à la fin. Physiquement très difficile, plus que d'habitude. Mais je donne tout parce que j'avais envie d'être proche de mon record. Et après, c'était très difficile de récupérer en 30 minutes. L'enjeu était tel que j'avais vraiment envie de réussir ce relais avec l'équipe. Donc j'ai bien récupéré, au final je m'en sors bien et je nage plutôt vite dans le relais, donc je suis content.
De quoi vous avez envie là, juste maintenant?
Là ce que j'ai envie c'est de voir ma famille, je ne les ai pas vus trop cette semaine, et de partir en vacances, et de penser à autre chose.
Bonnes vacances au roi Léon Marchand au micro de Jérôme Val, il cumule 7 titres désormais en seulement 3 ans. Enfin les concerts de K-pop se multiplient en France, les Blackpink, un girls band ce soir au Stade de France, après le groupe Stray Kids la semaine dernière, et en voici un original Universe dont 2 des 5 membres ne sont pas sud-coréens mais nord-coréens, réfugiés du régime, ils ont réalisé le rêve de leur vie. C'est Léo Fioretti.
Rien ne les y prédestinait et pourtant ils l'ont fait. Malgré le fait que la Corée du Nord soit un pays extrêmement fermé où tout ce qui vient du Sud est interdit, certains, comme Kim Sok, sont tout de même parvenus à découvrir la K-pop depuis le régime nord-coréen, malgré les risques de sanctions.
En Corée du Nord, j'écoutais déjà de la musique sud-coréenne, mais en cachette, avec des clés USB. En arrivant en Corée du Sud, j'ai continué et aujourd'hui, c'est devenu mon métier.
Une passion qui est restée, comme pour son collègue Yu Yok, qui a découvert le hip-hop en Corée du Sud et n'a pas abandonné son rêve de pouvoir monter sur scène.
Du Après être arrivé au sud et avoir fait mes études, je travaillais à l'usine, mais je n'avais pas lâché ma passion du chant. J'ai participé à un télécrochet et c'est là que la manageuse du groupe a dû me repérer. Elle est venue me voir pour me proposer de la rejoindre. Au début, je pensais qu'elle voulait m'arnaquer, mais elle m'a offert des cours de chant tous les week-ends et petit à petit, j'ai compris que je pouvais vraiment devenir chanteur.
Un parcours exceptionnel dans une industrie musicale coréenne très exigeante. Aujourd'hui, le groupe compte déjà de nombreux fans, aussi bien en Corée du Sud qu'à l'étranger, et peut-être bientôt en Corée du Nord.
Un reportage à Séoul, c'est Lio Fioretti. Et avant la météo, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le sacre historique de Pauline Ferrand-Prévot, la rémoise de 33 ans sur le Tour de France Femmes. Première victoire française sur le Tour depuis 1989. Très bonne soirée.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Fabien.
Le ciel est partagé.
Oui, c'est variable sur le tiers nord de l'Hexagone, des Pays de la Loire au sud de l'Alsace à cause d'une faible perturbation poussée par la tempête Floris qui circule au large des îles britanniques et provoque un ciel chargé sur les côtes de la Manche, des nuages jusqu'au nord-est et un vent de sud-ouest qui se renforce, notamment sur le Pas-de-Calais, avec des rafales atteignant 60 à 70 km par heure en soirée, pendant que le soleil lui s'impose sur les deux tiers sud du pays après dissipation des voiles nuageux.
La tendance se confirme, les températures sont à la hausse.
Et oui, au petit matin, les valeurs restent encore fraîches, entre 9 et 14 degrés sur le nord-est et jusqu'à 23 sur le littoral méditerranéen. Mais l'après-midi, la chaleur gagne du terrain. Vous aurez 29 à 30 degrés dans le centre du pays, 33 à 34 dans le sud-ouest et jusqu'à 36 entre le Languedoc et la Provence.
Prévision météo signée Magali Rochereau. Merci à vous, très bonne soirée.